Une fois n'est pas coutume, j'aimerais placer cette émission sous la protection d'une mascotte. Elle est habillée en jaune vif. Non, elle n'a pas occupé les ronds-points cette année. C'est un petit oiseau à la silhouette ronde, au bec très court et à la poitrine jaune donc. Cet oiseau, c'est le serin, un passereau qui fait partie des espèces protégées. Et si je vous parle du serin aujourd'hui, S-E-R-I-N, c'est simplement pour appeler de mes voeux un débat serein sur un sujet qui pourtant déclenche les passions en France, la chasse. La hausse des accidents de chasse fait toujours réagir, tout comme les faveurs accordées aux chasseurs par les pouvoirs publics, à commencer par la baisse drastique du prix du permis de chasse qui est entré en vigueur juste avant les élections européennes. D'aucuns estiment que le poids politique des chasseurs est en complet décalage avec la perception de l'opinion publique. Alors, les règles de la chasse devraient-elles évoluer? Les chasseurs sont-ils écolos? Sont-ils de fins connaisseurs de la biodiversité qui méritent à ce titre l'oreille des gouvernants? J'attends vos réactions sur franceinter.fr à la page du débat de midi, sur l'application France Inter de votre téléphone ou sur Twitter. Faut-il crier haro sur les chasseurs? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat de midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec quatre invités en direct, le premier est le patron des chasseurs français, président de la Fédération nationale des chasseurs. Bonjour Willy Schren.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous avez écrit récemment une lettre ouverte à vos adhérents pour remercier Emmanuel Macron Et dans ce courrier, vous saluez, je cite, l'implication personnelle du chef de l'État. Est-ce que vous diriez que le président vous soutient encore plus que ses prédécesseurs à l'Élysée?
Je pense qu'Emmanuel Macron est de toute façon, très en attente de ce qui peut se passer dans la ruralité. C'est pas un grand secret. On voit que c'est un sujet qui l'intéresse. La chasse est une composante importante de la ruralité. C'est pas la ruralité, mais c'est une composante importante. Et effectivement, quand on parle aujourd'hui d'aménagement du territoire, de politique environnementale et de toute cette approche de biodiversité, on ne peut pas aujourd'hui dire, voilà, on fait sans la chasse, c'est pas possible.
Monsieur Macron, donc, plus que messieurs Hollande, Sarkozy
oui,
ou
Oui, je pense que Emmanuel Macron a plus de feeling, effectivement, vis-à-vis de la ruralité en général. Et on le retrouve effectivement dans ses positions. D'ailleurs, position qui avait été très clairement expliquée avant son mandat.
C'était une promesse de campagne.
Il avait dit qu'il serait là pour effectivement travailler avec la chasse, mais comme avec tous les autres usagers de la nature, ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement avec nous.
J'accueille également Pierre Rigaud. Bonjour à vous.
Bonjour.
Pas de fusil dans la nature, c'est le titre du livre que vous allez publier à la rentrée en septembre aux éditions Humaine Science. La préface est signée Nicolas Hulot. On se souvient bien sûr que c'est notamment à cause du poids des lobbies que Nicolas Hulot a claqué la porte du ministère de l'Environnement l'année dernière. Autour de la table également, Rémi Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes reporter, fin connaisseur de la faune sauvage, auteur de documentaires animaliers qui sont diffusés à la télévision. Et vous avez une position, on va l'entendre, très nuancée sur la chasse en France. Enfin, je salue notre invité qui est en duplex du Parlement européen à Strasbourg. Bonjour Karim Adeli.
Bonjour.
Député Europe Écologie Les Verts. Alors j'aimerais démarrer ce débat en évoquant une actualité qui est très récente. La naissance annoncée pour le 1er janvier 2020 de l'Office français pour la biodiversité. Le projet de loi a été bouclé la semaine dernière par une commission paritaire de députés et de sénateurs. L'OFB naît du rapprochement entre l'AFB et l'ONCFS. On peut penser que c'est pas passionnant, franchement, deux établissements publics qui fusionnent et qui changent de nom au passage. Mais c'était en réalité une alliance inédite. C'est l'alliance entre le monde de la chasse et celui de la protection de la nature. Est-ce que vous y voyez, Karim Adeli, un contresens?
Il faut regarder la place des chasseurs de manière globale. Qu'est-ce qu'ils représentent? Quand on regarde, c'est à peu près 1 million de personnes. Réellement, quand on regarde réellement les chiffres, c'est entre 800 000, 700 000 personnes. Et on se dit, mais la nature n'est pas bien dotée parce que cette nouvelle instance, elle doit représenter 45 millions d'animaux qui sont souvent tués et 20 millions qui sont des animaux d'élevage. Et donc, moi, ma préoccupation, elle est de regarder les instances qui vont aussi bien travailler sur les espèces qui sont en voie de disparition. Je rappelle, parce que j'en ai ras-le-bol, je vous le dis, hein, des grands discours sur la biodiversité.
On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr.
Oui, mais il faut le dire. Enfin, voilà. Et on voit bien que on fait une instance qui est censée protéger la biodiversité, la nature, etc. Que quand on interroge les Français de savoir, alors, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la chasse est importante? On regarde les dernières enquêtes, c'est 1,7% des Français qui disent, oui, on chasse, mais 80% considèrent que la protection des animaux est une cause la plus importante, voire très importante. Et donc, sur la légitimité de cette instance, je considère qu'aujourd'hui, il faut renforcer réellement le poids de l'ensemble des associations qui défendent la nature et qui défendent notamment les animaux. Pourquoi ? Je ne fais pas ça en tant que juste écologiste. Je fais ça parce que nous sommes à un moment de vie où tout ce qui est détruit n'est pas réparable. Et ça, je tire la sonnette d'alarme parce que nous sommes à un moment où le dérèglement climatique ne nous fera pas de cadeau et que c'est nous, les êtres humains, que nous devons être responsables face à ce qui est en train d'arriver.
Rémy Dupuy, documentariste animalier. La place des chasseurs dans ce nouvel organisme public de préservation de la nature, est-ce que pour vous c'est justifié ?
Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que l'ONCFS ? Moi, c'est des gens avec qui je travaille.
Office national
souvent.
De la chasse et de la faune sauvage.
Exactement, ce sont des agences, c'est une police de l'environnement hein, qui a d'abord un devoir de neutralité, c'est pas un corps de chasseurs qui s'est constitué, ce sont des spécialistes, des gens qui s'intéressent à la biologie des espèces. D'ailleurs, dans certains cas, moi je travaille beaucoup sur la question de l'ours, l'ONCFS est le réservoir de savoir aujourd'hui, de connaissances sur l'espèce, et ils ont un devoir de régulation aussi de l'activité cynégétique, donc un devoir de contrôle. Et je ne vois pas en quoi l'ONCFS et l'AFB ne pourraient pas fusionner. Au contraire, ce sera un organe qui servira plutôt d'arbitre entre des camps qui s'opposent et se déchirent.
Allez, je donne la parole à tout le monde dans un instant. Cette émission est préparée par Cyril Marchand, réalisée par Lola Costantini. Pierre-Yves Derelin et Charles Lecas sont à la technique. Programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert.
Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire. Une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte. C'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface.
la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond. Par peine, et on finit de camino, et on reste de toc, et on poco sozinho. Par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine.
Georges Moustaki s'attaque à un monument brésilien. C'était les eaux de Mars sur France Inter.
Le débat de midi, Dorothée Barba.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains.
Ce que justement la chasse représente, une activité culturelle, économique, environnementale et sociale, d'une grande importance pour le pays, c'est un mode de vie.
Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable.
C'est dommage, on lui a enlevé la vie, mais bon, c'est comme ça.
Alors je suis parti tout seul.
C'est le but de la chasse d'ailleurs quelque part. C'est le jeu de la vie et de la mort. C'est l'histoire de la nature. La nature, beaucoup de gens oublient que c'est impitoyable.
Voilà, notre réalisatrice Lola Constantini s'est bien amusée. On parle de la place des chasseurs dans la société et de leur poids politique jusqu'à 13h. Willy Schran, le patron de la fédération, est exaspéré par ce petit module sonore. C'était une plaisanterie.
France Inter, voilà. Reste France Inter.
Et j'aimerais...
pas trop la chasse et ça s'entend bien.
Pas du tout. Alors, je vous donne la parole en premier.
Non, monsieur Rigaud a demandé à parler de l'OFB, on va le laisser s'exprimer, il a pas encore
parlé. Pierre Rigaud, sur cette histoire d'office qui va naître en janvier 2020 et qui donne la place à la chasse, qu'avez-vous à répondre à Rémi Dupuy ?
C'est un putsch des chasseurs qui ont réussi grâce à Emmanuel Macron. Ils étaient déjà très bien incorporés au plus haut du pouvoir, mais alors là, c'est très clair, dans l'organisme, peu importe le détail administratif, qui va s'occuper de la biodiversité, il va y avoir une place de choix pour les chasseurs, ce qui va permettre la continuité de ce qui se fait depuis plusieurs décennies, à savoir, pour l'intérêt d'une minorité active, l'élimination d'espèces protégées, puisque une trentaine d'espèces en France, les espèces protégées ne seront plus protégées, il y aura des espèces qui sont menacées, qui continueront à être chassées. Il y aura toujours, comme c'est le cas encore, 20 millions d'animaux élevés industriellement pour être lâchés pour la chasse, les faisans, les perdrix, etc. Il y aura encore des chasses dans des enclos, il y aura encore le déterrage des blaireaux, il y aura encore des pratiques atroces, inavouables, ça sera encore un désastre pour la biodiversité. C'est un putsch politique.
Willy Schran.
Alors, on va répondre aux deux, y compris à la députée qui s'est exprimée avant. Donc d'abord, c'est pas 700-800 000 chasseurs en France, c'est 1 140 000 tous les ans qui valident leur permis.
Qui ont le permis, et il y en a peut-être sans doute plus qui ont le permis locaux.
Il y en a juste 5 millions qui en ont un. Bon, alors
on
c'est peut-être dérisoire pour madame la députée.
Mais
c'est
en France,
encore plus de voix que ce qu'ils ont fait aux élections européennes, donc je ne m'inquiète pas pour la suite. Ensuite, en ce qui concerne l'OFB, il faut être très clair.
C'est assez petit ça, monsieur.
Oui, bah, c'est pas beaucoup plus grand ce que vous avez commencé par dire. Mais laissez-moi m'exprimer, vous avez eu la parole. Donc il y a aussi un point important, c'est que c'est toujours très amusant de parler effectivement de l'ONCFS, de l'OFB, tout ça.
Alors, ah non, c'est pas amusant,
d'abord,
c'est une réalité.
Non, mais la réalité quand même, c'est quand même gonflé parce que l'ONCFS... Qui est-ce qui paye l'établissement public? Alors, certes, qui dans son nom, qui a le nom chasse, mais qui fait, comme l'a dit M. Dupuy, énormément de choses en dehors de ça. Mmh. Ne travaille pas que les espèces chassables, travaille énormément de points. Nous, on paye, les chasseurs, 72 millions d'euros tous les ans à l'ONCFS pour que ça puisse se faire. Le complément est donné une trentaine de millions par l'État, hein, et tout le monde revendique des places là-dedans, mais qui paye? Il n'y a aucune association qui met un centime, rien du tout. C'est les chasseurs qui payent pour la biodiversité.
Non, c'est les chasseurs qui payent pour tuer.
Vous allez payer désormais un peu moins, puisque Emmanuel Macron a diminué de moitié le prix du permis de chasse.
Là, j'en viens à ce que vient de dire effectivement M. Rigaud. On peut toujours ne pas être d'accord, mais je sais qu'il travaille à l'ASPAS, que l'ASPAS y mette un peu d'argent. On y met encore 45 millions, nous, parce qu'on a la sensation que c'est important et qu'il fallait le faire. Alors, on y a un putsch. Moi, je veux bien. C'est la chasse qui s'est toujours opposée à la fusion depuis quelques années de l'AFB et de l'ONCFS. Nous étions tous contre. Moi, effectivement, quand je suis arrivé en 2016 président de la chasse française, je me suis rendu compte très vite qu'on pouvait pas continuer à travailler au niveau de la biodiversité avec deux établissements qui avaient, somme toute, le même cœur de métier. Donc, la logique d'État et la demande de l'État et la demande des écologistes était de fusionner ces deux établissements publics.
Ce sont plutôt effectivement les chasseurs qui s'opposaient à cette fusion.
Ils ont le pouvoir.
Mon accord, effectivement. Mais le
en
pouvoir...
contrepartie de la baisse du prix du permis de chasse, d'ailleurs.
Non, c'était pas une contrepartie. On a dit, voilà, il y a un moment où ça peut pas rester comme ça. Il peut pas avoir deux établissements publics qui traitent de la même chose. Donc, et l'État ne pouvait pas plus l'accepter non plus longtemps. Donc, ok, c'est en train de fusionner. Alors, le pouvoir que peut avoir effectivement le monde de la chasse au sein de la table du conseil d'administration demain de l'OFB, eh ben, nous, on amène encore 45 millions d'euros sur un budget qui en fera à peu près 400. Donc, on a juste demandé d'avoir au moins la représentativité de ce qu'on mettait financièrement dans cette affaire. Donc, on a dans la loi 10% avec les pêcheurs, d'ailleurs.
Alors,
donc, ce sera un petit peu moins.
Au-delà
donc,
de ces conditions...
Mais non, mais je veux que les associations payent pour s'y asseoir. C'est facile.
Au-delà,
mais qu'ils mettent un peu d'argent.
Willy Schran, au-delà de ces considérations financières et administratives...
Elles sont importantes, madame.
Sont très importantes, je suis d'accord avec vous. Sur le fond, cet argument qui revient beaucoup de dire que les chasseurs sont les premiers écolos de France, on se souvient de cette campagne de communication qui avait fait beaucoup réagir. Quels sont vos arguments sur le fond pour dire que les chasseurs préservent la biodiversité.
Je crois là aussi, alors on va rentrer dans une bataille des chiffres comme d'habitude, hein, mais il y a effectivement, alors on a tous compris ce que voulait dire le message, bon évidemment on a fait un petit pied de nez, on sort d'un monopole de l'écologie punitive maintenant depuis 50 ans en France. Il était temps de dire un petit peu qu'il y avait d'autres choses qui se passaient et qu'il y avait d'autres structures qui étaient elles aussi capables de travailler pour la biodiversité et pas seulement pour la chasse, pour la biodiversité. Et là il y a quand même des choses importantes. Les chasseurs, quand ils n'ont pas un fusil dans les mains, quoi qu'on puisse en dire, ils apportent environ 78 millions d'heures de travail à la biodiversité, et le BIP, c'est pas n'importe qui.
78 millions d'heures
oui, à la biodiversité, et le BIP, l'établissement public d'État qui a chiffré l'impact de la chasse écosystémique, c'est-à-dire l'impact des chasseurs au niveau écosystémique en France, c'est 4 milliards d'euros. Qui peut se revendiquer en France aujourd'hui, hein, après la chasse, hein, ou quand c'est pas la chasse, d'apporter 4 milliards d'euros écosystémiques. Moi, je le dis, si on n'avait pas été là pour s'occuper des zones humides, si on n'avait pas été là pour s'occuper de nombreuses espèces aujourd'hui menacées et qui ont des problèmes, je crois que ce serait une catastrophe. Heureusement qu'il y a eu les chasseurs et heureusement qu'on fait ce boulot.
L'expression écologie punitive ayant été employée, je me dois de donner la parole à Karima Deli, députée Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce que vous répondez?
Parce que ça tient pas la route. S'il y a plein d'espèces aujourd'hui qui n'existent plus, c'est bien parce qu'on les a tuées. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pourquoi la loi intervient à ce moment-là pour protéger les espèces? Si vous étiez les plus grands défenseurs de l'environnement, il n'y aurait pas des lois qui aujourd'hui viennent au niveau européen, que ce soit la directive oiseaux, et je vais pas toutes les faire. Parce que justement, vous n'êtes pas dans une... Vous n'êtes pas des gestionnaires de la nature. C'est ça qui est terrible. Pour moi, vous êtes un petit peu... Alors, il faudra revenir notamment dans les chiffres et dans les détails de ce qu'est cette chasse, en plus, quand on les voit, les différents types de chasse. Moi, je trouve ça assez terrible. Maintenant, la véritable question, et je le dis, c'est qu'on ne regarde pas la source de ce que vous dites quand vous dites « on est les plus grands écolos ». Combien d'espèces sont menacées? Combien de territoires et de lieux sont aujourd'hui dans des états incroyables parce que abandonnés? Combien aujourd'hui on a sur nos territoires aussi cette volonté de faire en sorte que les chasseurs... Pour moi, je suis assez atterrée parce qu'il y a tellement de choses derrière qui me paraissent vraiment à l'encontre de la nature, que je ne peux pas me permettre de vous dire
alors,
non.
Alors maintenant, parce que la plaidoirie est belle, mais concrètement, c'est quoi les espèces qu'on a détruites? Les territoires qu'on a détruits? J'aimerais bien l'entendre.
Je vais reprendre quelque chose qui vient d'être dit.
On est parlementaire, on balance des choses, on se fait lire à l'Europe, il faudrait quand même être concret dans ce qu'on raconte.
Faire des différences entre les différents modes de chasse, c'est quelque chose qui revient beaucoup,
madame la députée.
Je vais vous donner un exemple très concret.
S'il vous plaît,
je vais vous donner un exemple très concret.
Non, je suis en train de lire à Karima Deli, s'il vous plaît.
Parce qu'on est en train de me dire, mais je fais des lois là, comme ça. Comment se fait-il? Et je suis d'accord avec monsieur Pierre
Prigaud
qui disait tout à l'heure, oui, il y a du laisser-aller. Comment se fait-il qu'en France, on a des lois qui permettent notamment la destruction, par exemple, de 90 espèces chassées, et quand vous regardez les autres pays, c'est entre 10 et 15. Comment vous m'expliquez ça?
Mais je vais vous l'expliquer très, très facilement, madame la députée. Peut-être qu'en France, justement, il y a plus de chasse et qu'il y a plus de biodiversité grâce à la chasse et qu'il y a plus d'espèces.
Rapidement, Willy Schran, voilà. Je voudrais donner la parole à Pierre Rigaud. On reçoit énormément de réactions par Twitter et par courriel. Et notamment le rédacteur en chef du Chasseur français, Antoine Berton, qui nous écrit « Sachez simplement qu'au-delà de la chasse, ce sont des centaines de milliers de pratiquants des villes et des campagnes qui s'y adonnent par plaisir, par conviction et par amour de la nature. La chasse est belle, dit-il, quand elle est bien faite, sécurisante et encadrée. La chasse est puissante par son organisation. La chasse est d'abord un acte écologique, car l'écologie est l'interaction d'un être vivant avec son milieu. Et puis surtout, ce sont des dizaines de milliers d'emplois non délocalisables, une structuration de la vie rurale. » Voilà. Merci de laisser la chasse entrer par la grande porte de la maison de la radio, conclut le rédacteur en chef du Chasseur français. C'est important de ne pas mettre toutes les chasses dans la même gibecière, nous écrivent beaucoup les auditeurs. Pierre Rigaud, toutes les méthodes de chasse ne se valent pas.
Un animal sur quatre qui est tué à la chasse, il provient d'un élevage. Donc on élève des animaux pour les lâcher et pour les tuer. 20 ou 30 espèces sont menacées, elles sont chassées. Des territoires sont gérés par des chasseurs parce qu'ils ont le pouvoir politique grâce à leur organisation qui fait qu'ils ont la mainmise sur des territoires que d'autres qui sont désintéressés voudraient, eux, pouvoir gérer sans tirer sur des animaux. Alors, au-delà d'un débat, à mon avis, pour et contre, c'est pas deux avis qui se valent, c'est pas simplement un débat contradictoire. Il faut regarder ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire une trentaine d'animaux officiellement, de millions d'animaux qui sont tués tous les ans à la chasse. Donc, est-ce que c'est intéressant écologiquement de tuer ces millions d'animaux? Non. Est-ce que ça a un intérêt pour les animaux? Non. Ça a un intérêt pour la société? Non. Est-ce que c'est de l'ordre de l'intérêt général? Absolument
pas. Sur l'intérêt écologique, on peut peut-être donner la parole à Rémy Dupuis. Il y a un intérêt écologique à prélever certaines espèces.
Alors, dans l'état de notre territoire, on est dans un écosystème en France qui est l'agro-système. En fait, 50% de nos espaces sont cultivés. On atteint à peu près les 30% d'espaces protégés en France à l'horizon 2020, en fait, c'est ce que le gouvernement vise. Et ensuite, le reste, c'est de l'habitat humain ou des zones naturelles non protégées. Aujourd'hui, la réalité de la nature en France, elle n'est pas originelle. Ce sont des espèces qui se sont adaptées. C'est Darwin qui disait les espèces qui survivent ne sont pas les plus intelligentes, ne sont pas les plus fortes, mais celles qui s'adaptent au changement. Et pour moi, et pour beaucoup de naturalistes intégrants, puisqu'on ne peut plus dire progressistes, l'homme fait partie de la biodiversité. Et les gens qui interagissent encore avec la nature sont précieux dans la transmission. Je pense que la chasse va un jour disparaître. On le voit, le nombre de chasseurs diminue, mais ce sont des gens, ce sont des humains. On n'est pas là pour sacrifier notre propre espèce. Je pense qu'il y a des connaissances qui sont très précieuses. Moi, en ayant grandi au fin fond de la Gascogne, ce sont les chasseurs qui m'ont transmis énormément de connaissances naturalistes que je reproduis aujourd'hui dans mon métier de reporter, de documentariste animalier, mais je dois aussi rendre à César ce qui lui appartient. Et les chasseurs ont été les garants d'une transmission. J'ai lu un article sur vous, Monsieur Rigaud, ce matin, parce que je ne vous connaissais pas, et vous disiez, jusqu'à 20 ans, je me suis senti très seul, j'étais seul dans ce rapport à la nature. Moi, je ne me suis pas du tout senti seul. Les chasseurs m'ont transmis, les chasseurs m'ont transmis, les pêcheurs m'ont transmis, les agriculteurs m'ont transmis, je ne peux pas tirer la chasse sans mauvais jeu de mots. Et en tout cas, les praticiens, les acteurs de la nature aujourd'hui, ce sont des gens qui interagissent avec elle, parfois de manière destructrice, mais je crois qu'il faut changer les choses de l'intérieur et non pas en s'y opposant.
Est-ce que vous sentez parfois seul, justement, vous, avec ce point de vue de défenseur de la nature et des chasseurs?
Évidemment. Moi, je reviens d'Afrique récemment, on s'est fait tirer dessus par des braconniers, je passe ma vie à lutter contre les mauvaises chasses, entre guillemets, mais la personne qui remplit modestement sa gibecière, qui privilégie la qualité à la quantité, à la condition qu'on arrête de chasser des espèces menacées, la tourterelle des bois, le fuligule milouin, le lièvre en France, on peut laisser la place à tous les acteurs de la nature dont les chasseurs font partie. Ils ont un patrimoine, connaissance de la nature et du comportement animal, l'éthologie à nous transmettre. Et
ça, est-ce que ça autorise à tuer?
Mais il faut plus de naturalistes, alors il faut plus de gens qui sont carrément...
Mais en chaque chasseur, pardon, je rebondis tout de suite, en chaque chasseur, un naturaliste sommeille. En chaque chasseur, un naturaliste sommeille. Il y a beaucoup de chasseurs qui passent à la photo animalière, notamment, et qui arrêtent, qui déposent le fusil.
Je ne vois pas en quoi l'activité de tuer permet en plus une expertise, notamment sur la nature. C'est quand même incroyable ce que vous êtes en train de dire. Les naturalistes, ils font attention notamment à la biodiversité, aux écosystèmes, etc. Donc ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est il faut embaucher plus de naturalistes, plus d'experts de la nature pour faire en sorte que tout ça puisse vivre dans quelques années encore.
Précision importante, Rémi Dupuis, vous n'êtes pas chasseur vous-même.
Non, je ne suis pas chasseur, mais je les côtoie au quotidien. Non, jamais, mais je les côtoie au quotidien et je sais qu'ils ont des choses à transmettre, ils ont des choses à dire et ils ont une fascination pour l'animal, pour la vie sauvage, pour les écosystèmes qu'ils contribuent à entretenir dans certains cas, je dois le dire, surtout dans mon coin dans le sud-ouest, mais dans d'autres aussi. Et c'est évident que, pour moi, le nombre de chasseurs baissant, il faut accompagner cette déprise cynégétique en proposant d'autres activités dans la nature.
Déprise cynégétique, voilà qui mérite une traduction.
Oui, je ne sais pas si ça se tient.
Cynégétique, c'est ce qui concerne la chasse et la déprise, c'est de baisser le nombre de prises. Réaction d'un auditeur, je vous la lis. Alexis nous écrit ceci. C'est un sujet qui me met très en colère. Je n'en peux plus d'être privé de nature la moitié de l'année pour faire plaisir à une minorité de type armé qui ont l'oreille des parlementaires et de l'Élysée. Un jour de chasse par semaine et pas le week-end, ce serait bien suffisant. Les mecs qui t'expliquent qu'ils sont les premiers écolos de France, c'est comme si Monsanto essayait de te convaincre qu'ils sont les meilleurs sur le bio. Et il ajoute ceci, Willy Schran, une simple comparaison avec nos voisins européens suffit pour comprendre que chez nous, les chasseurs ont des privilèges exorbitants et scandaleux compte tenu de ce qu'ils représentent, moins de 2% de la population.
Alors là, on arrive sur un autre sujet, c'est celui effectivement de la chasse et surtout de la propriété privée. Mmh. Je tiens à rappeler quand même que la forêt française à 80% est privée en France. Voilà. Donc vous avez un jardin, peut-être pour ceux qui habitent pas à Paris. Je sais pas si vous êtes tous prêts à le partager avec les gens qui pourraient se pointer le dimanche après-midi, faire un barbecue ou décider de faire un jeu de football ou quoi que ce soit qu'ils veulent. Donc la nature, c'est ça. C'est pas public, la nature. Il y a des endroits publics et ils sont extrêmement régentés. Je prends l'exemple des forêts domaniales où les chasseurs payent pour y chasser, où là, l'État choisit de donner des jours de chasse, souvent autour d'un jour par semaine.
Ce que vous dites, c'est qu'il serait liberticide d'interdire aux gens de chasser sur leur domaine.
Vous êtes chez vous, c'est votre propriété privée. C'est quand même dingue qu'on a toujours cette idée du côté de l'écologie punitive de dire, ils sont tellement cons ces chasseurs, ils sont tellement cons ces propriétaires forestiers ou simplement des propriétaires de champs, on va en plus leur piquer le droit à l'écologie et le droit d'exister. Non mais on est dans quel monde ?
Alors la comparaison, avec les voisins, attendez, s'il vous plaît, Carole Madeli, la comparaison avec les produits, les autres pays européens, est-ce qu'elle vous paraît pertinente ? Est-ce qu'effectivement...
Vous sentez pas qu'il y a un petit vent quand même, je dirais, de révolution française derrière tout ça ? Le droit de chasser, c'est quelque chose qui a été durement acquis dans la nuit du 4 août 1789.
Pas des gilets jaunes, les chasseurs.
C'est pas les gilets jaunes. Je parle de quelque chose de profond. La chasse, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. C'est encore les derniers maillons aujourd'hui qui sont, je dirais, qui relient la ruralité entre elles. On aime ou on n'aime pas. Combien de maires ruraux nous disent aujourd'hui, si on n'avait pas l'association des chasseurs dans notre village, qu'est-ce qui reste? Qui c'est qui ferait le petit couscous ou le jeu de loto pour la Ducasse et j'en passais des meilleurs? Aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et Antoine Berton a raison, la chasse, effectivement, c'est pas seulement l'acte de chasser, c'est un amour immodéré de la nature, que on aime l'entendre ou pas. Oui, on tue des animaux parce que c'est quelque chose de normal dans la nature, et on y a notre place. Tout le monde tue tout le monde dans la nature, et c'est pas du tout le monde des bisounours. Et en plus, on a une vocation économique et plus que social au sein des territoires aujourd'hui ruraux.
Il y a aujourd'hui deux fois moins de permis de chasse qu'en 1975, si je ne me trompe pas. Rémi Dupuis disait à l'instant qu'à son avis, la chasse va disparaître en France. Est-ce que vous partagez ce constat, voire cette inquiétude ?
Je l'entends, j'ai pas la prétention de savoir ce qui se passera à l'avenir. Il y a moins de chasseurs aujourd'hui qu'il y en a eu, il y a moins d'espace aussi sûrement chassable. Il y a aussi, surtout, je dirais, toute une partie de gens qui étaient des chasseurs... Allez, on va dire pas des chasseurs opportunistes, mais des gens qui allaient à la chasse parce qu'on allait à la chasse à la campagne, on va le dire comme ça, et qui étaient pas spécialement des amoureux de la nature, des gens qui la regardent, qui la comprennent. Et j'apprécie ce qu'a dit Rémi Dupuis. C'est on a effectivement, c'est pas livresque chez nous, c'est pas quelque chose, c'est pas les grandes théories, c'est pas ça vient pas de l'écologie politique comme Madame Deli. C'est on a des compétences qu'on a appris sur le terrain, qu'on aimerait transmettre. Peut-être qu'un jour la chasse disparaîtra, je ne le souhaite pas. Je pense que ce serait un vrai cataclysme pour la biodiversité. Et pour terminer tout ça, je crois que le plus important aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, on le voit politiquement, le problème aujourd'hui, c'est pas la chasse. Le problème, c'est l'écologie punitive ou l'écologie politique. Tant qu'on donnera à ces gens-là le pouvoir de gérer l'écologie. Parce que quand on pose la question aux Français, on leur dit c'est quoi les choses les plus importantes ? C'est le pouvoir d'achat et c'est l'écologie, c'est le climat, c'est plein de choses comme ça. Hein, ça fait 30 ou 40 ans que les ministères d'écologie sont plus ou moins dirigés par des gens qui viennent de l'écologie, on va dire. Et je comprends pas, c'est toujours le même bordel. Ça marche pas. Et c'est toujours en train de baisser. Donc peut-être qu'il faudrait faire appel aux gens de terrain qui ont sûrement quelque chose, qui n'ont pas, je dirais, le centre de toutes les compétences, mais qui peuvent apporter quelque chose. Et on ferait bien mieux de travailler ensemble avec eux depuis longtemps, et ça irait beaucoup mieux sur les territoires.
On a entendu dans tout ce que vient de dire Willy Schran, notamment cet argument de la prédation. Les animaux se chassent les uns les autres. Les animaux se tuent entre eux. Oui. Pierre Rigaud.
Oui, nous sommes des humains.
Vous évoquez, vous, cet argument dans votre livre, il vous paraît complètement fallacieux.
Ah, c'est un argument parfaitement fallacieux, dans le sens que si on l'applique à plein d'autres choses, ça paraît d'autant plus aberrant. Par exemple, les animaux font des choses entre eux qu'on ne fait pas entre nous humains, parce que nous sommes certes des animaux, mais on a quelque chose en plus. Ça s'appelle la capacité d'empathie, ça s'appelle la compréhension des conséquences de nos actes. Et moi, par exemple, je n'ai pas le droit de prendre un chaton et de le jeter contre un mur. Je peux être condamné pour ça. Par contre, j'ai le droit, si je passe mon permis de chasse, de tirer sur un animal, de le blesser et le faire souffrir pendant des heures, voire plusieurs jours avant qu'il meure. Pourquoi ? Parce que la loi permet que cela existe. Concernant les animaux sauvages. Et pourquoi ça existe ? Parce que le lobby de la chasse, qui représente une minorité, est suffisamment fort, organisé, argenté et actif pour pouvoir faire en sorte que les lois le protègent. Et j'espère bien que les chasseurs disparaîtront, ou du moins la chasse disparaîtra, avant la disparition, si je puis dire, naturelle ou populationnelle des chasseurs, puisque si on prolonge la courbe de déclin des chasseurs, ils disparaîtront en effet d'eux-mêmes, mais ça va prendre très très longtemps. Donc il faudrait que les lois évoluent dans le sens où on n'est plus la possibilité de tuer pour s'amuser.
Vous connaissez bien sûr le succès du sketch des Inconnus sur le bon chasseur et le mauvais chasseur, Willy Schran. Sans doute faut-il se poser la question du bon lobby et du mauvais lobby. Vous ne contestez pas, j'imagine que le lobby des chasseurs est très efficace en France. À quoi ça tient, à votre avis ?
Mais ça tient à tous les lobbies. Je veux dire, Monsieur Rigaud va sortir un livre. Le mec qui va le préfacer s'appelle Nicolas Hulot, le plus grand lobbyiste de tous les temps, tout au moins de la Ve République. Le mec qui a pris le plus d'argent, hein, chez tous les gens qui les entourent, chez les professionnels, dans les entreprises. Le number one, hein, qui a monté un empire financier qui s'appelle la Fondation Nicolas Hulot. Hein, et c'est le must du must. Donc je suis très heureux de voir que le numéro un des lobbyistes français préface le livre de Monsieur Rigaud, qui dit partout après dans les pages que c'est une honte qu'il y ait des lobbies.
Vous ne pouvez pas me révéler les secrets de votre efficacité, à vous.
Il y a pas de secret. Je crois que simplement c'est du bon sens. Quand on arrive avec nos arguments, je vous dis, c'est pas les seuls. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui l'État français, et pratiquement le président de la République, ou aujourd'hui le gouvernement en général, on peut pas quand même dire, voilà, comme l'a dit M. Dupuy, on tire la chasse et on vire tout le monde et puis on met des écolos. Bah, ça marche pas déjà. Donc, on écoute tout le monde et on travaille avec tout le monde. Mais le tout ensemble. D'ailleurs, l'écologie est un moment très important. L'écologie politique. C'est maintenant que ça va se jouer. Soit ils continuent à faire du dogmatisme et du punitif et à emmerder à peu près tous les Français et ça va pas durer longtemps. Soit ils comprennent qu'il faut partager et qu'il faut construire avec les gens qui habitent dans ces territoires. Ce que nous, on demande. On demande pas qu'ils arrêtent, on demande qu'ils travaillent avec nous. Et ça, ce sera beaucoup plus intelligent. Sinon, à un moment, ils vont toujours revenir à 2% aux élections présidentielles. Parce que ça ne marchera jamais. En attendant, la nature se détériore et on n'avance pas.
Allez, je donne la parole dans un instant à Karima Deli, députée Europe Écologie Les Verts. Voici venir Lizzo sur France Inter, chanteuse, rappeuse et comédienne américaine, extrait de son troisième album, Juice.
Not the baddest bitch you like.
Try, you know.
I like shot a nigga better over time.
You know.
Heard you say I'm not the best.
parle de chasse aujourd'hui dans le débat de midi sur France Inter avec le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schran, avec le naturaliste Pierre Rigaud qui publiera à la rentrée Pas de fusil dans la nature, avec la députée européenne Karima Delli et avec l'auteur de documentaires animaliers Rémi Dupuis.
Le débat de midi, Dorothée Barba sur France Inter.
Et je me tourne vers Karima Delli, députée Europe Écologie Les Verts en duplex depuis Strasbourg. On parlait du poids politique, de la force de frappe politique des chasseurs. Est-ce que vous avez, vous, l'explication à cette grande efficacité du lobby des chasseurs, Karima Delli?
Bah, je pense qu'ils sont très bien organisés. Ils sont très bien organisés au point que ce fameux lobbyiste Thierry Coste se retrouvait à une table de négociation où il n'était pas invité, notamment par le ministre en charge de la transition écologique, qu'est Nicolas Hulot.
Il faut rappeler que c'est la raison pour laquelle Nicolas Hulot a dit avoir claqué la porte de son ministère.
Bien sûr, et puis quand même, ce monsieur était, il est toujours proche des hommes et des femmes politiques, que ce soit de droite ou de gauche, notamment proche de ce monde qui, à un moment ou à un autre, va devoir aussi trancher. Lorsque les Français disent à plus de 80%, désolé, on n'a pas forcément envie de tendre vers ce genre de type de chasse, bah, il faut tenter de porter l'intérêt général plutôt que quelques-uns. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, moi, me paraît très intéressante dans cette question de lobby, c'est que je me dis, mais vous êtes très très fort en France et très bien organisé, dans la mesure où dans les autres pays, par exemple, tout à l'heure, monsieur le représentant de la Fédération Nationale des Chasseurs, vous nous dites, mais pourquoi c'est pas le moment de se parler? Bah oui, mais regardez ce qui se passe ailleurs. Je vais vous dire, la chasse à courre, pourquoi on la met pas, justement, pourquoi on met pas fin à la chasse à courre, qui est quand même...
Parce qu'Emmanuel Macron a souhaité la préserver.
Eh ben voilà. Et donc, à un moment, on voit bien que les Français sont contre, et parce qu'il y a un petit lobby, des lobbies qui, eux, parlent plus fort, font beaucoup plus de bruit et sont très bien organisés, qui disent non.
Alors que le chef de l'État a dit que c'était très bon pour l'attractivité de la France, hein, la chasse à courre.
Non, mais je peux vous dire que l'attractivité...
Devant les chasseurs pendant la campagne.
Voilà. Et ben, je ne crois pas que l'attractivité de nos territoires, c'est ça. La première grande question qu'on est en droit de se poser, puisque, je le rappelle, nous, les humains, nous font partie de cette nature. Mais de quel droit on a de s'arroger le droit de vie sur notamment les espèces et la faune qui nous entourent? De quel droit, justement, on est en train de fermer les yeux juste sur des pratiques qui sont cruelles quand on regarde le type vraiment de chasse aujourd'hui? Alors, on peut revenir sur les différents types de chasse, mais quand on regarde aujourd'hui la chasse à glu, je vais pas tous les faire, etc. Mais on est dans des traditions cruelles qui sont incroyable. Et je pense qu'à un moment, si on ne traite pas les animaux comme nous traitons les hommes avec un peu plus de dignité, je peux vous assurer qu'on ne va pas dans le sens de l'histoire.
La cruauté revient beaucoup dans les courriels d'auditeurs que nous recevons. Je précise, pardon, que l'attractivité de la France, c'était pour les chasses présidentielles et non pas pour la chasse à courre.
Précision
importante. La chasse à glu, en effet, une pratique qui consiste à attraper des oiseaux en mettant de la colle sur une tige de bois que l'on cache au milieu des branches. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, a déposé un recours contre la chasse à la glu qui a été rejetée récemment par le Conseil d'État. Dont acte, Pierre Rigaud. La chasse à glu va continuer.
Ah oui, mais c'est tout à fait symptomatique du pouvoir des chasseurs. Simplement pour que quelques personnes s'amusent à mettre des bâtons englués et à attraper des oiseaux qui meurent dans des conditions abominables. C'est la même chose, bien entendu, qu'ils meurent puisqu'ils arrivent déjà morts dans des centres de sauvegarde quand les chasseurs récupèrent le bâton après d'autres gens qui arrivent avant eux. Il y a tout ça. Toutes les chasses sont cruelles puisque, de toute façon, se prendre une balle dans l'arrière-train ou alors se faire déterrer quand on est un blaireau ou alors mourir avec du plomb dans l'aile après avoir succombé au saturnisme quand on est un oiseau migrateur. Toutes les formes de chasse sont absolument cruelles. Et le plus absolument effarant, c'est que tout ça ne sert strictement à rien. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est qu'on est en train de débattre sur des choses autour, l'attractivité, ça ne sert à rien. Tuer un animal pour s'amuser, ça ne fait plaisir qu'à celui qui pratique cette activité. C'est au contraire de l'intérêt général, c'est au contraire de la biodiversité, c'est exactement dans le sens contraire de l'histoire.
C'est une méthode, je précise, qui est autorisée dans 5 départements en France, la chasse à glu, seulement pour capturer certaines espèces, les grives et les merles, à certaines périodes. Donc c'est très réglementé. Je serais curieuse d'avoir votre regard, Rémi Dupuis, sur cette pratique. pratique en particulier ?
Mon regard, c'est celui d'un méridional qui a aussi grandi avec les récits d'Alphonse Daudet, de Pagnol, sur le regard, l'observation de la nature. Hein. Moi, je suis un observateur de la nature que j'essaie de mettre en boîte. D'autres essaient
dans
de
vos documentaires.
Mettre en gibecière. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des points communs. Le regard que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a des pratiques qui doivent cesser parce qu'elles sont, à mon avis, amenées à évoluer.
Parce que trop cruelles ?
Ben oui, à mon avis, c'est clair. On dit souvent, moi j'ai coutume de dire, mieux vaut un animal bien tué qu'un animal mal élevé. On s'insurge beaucoup moins. Alors aujourd'hui, il y a un peu la lumière qui est faite sur les conditions d'élevage intensif, mais pendant longtemps, on s'est insurgé contre la chasse, mais qui tuait vite et bien, du moins qui en avait l'objectif. Les chasses traditionnelles, à mon avis, elles sont garantes d'un lien à la nature, mais qui est pour moi dépassé quant à la souffrance animale qu'elles impliquent.
Willy Schran.
Oui, je vais répondre. Il y a deux choses. Donc, les chasses traditionnelles et puis ce que disait Monsieur Rigaud. Donc les chasses traditionnelles. Bon, là, je crois qu'on est
La chasse à la glu, vous.
On va prendre l'exemple de la chasse à la glu. Vous avez, en fin de compte, qu'est-ce que c'est les chasses traditionnelles ? C'est un héritage fort, je dirais, de ce qu'est l'espèce humaine. Voilà. C'est les chasses qui ont été pratiquées depuis probablement des millions d'années pour certaines, des milliers d'années, on va dire, et qui servaient effectivement à attraper des oiseaux. C'est cette volonté de l'espèce humaine de s'élever effectivement au rang d'homme qu'elle est aujourd'hui et à une réflexion qui a permis, en voulant attraper les autres espèces, à devenir plus intelligent que les autres. Parce que c'est ça. Alors aujourd'hui, si on a la chance de pouvoir faire un débat, et si M. Rigaud peut faire un débat avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il y a un de ses lointains ancêtres qui a eu la convoitise d'essayer d'attraper un oiseau ou d'attraper un animal. Sinon, son cerveau serait resté le même que celui qui vit dans un arbre et qui est plein de poils. Donc, c'est quand même ça, le fondement de la chasse. Donc, les chasses traditionnelles, c'est un héritage de tout ce passé. C'est pas d'arme à feu, en fin de compte. C'est comment attraper un oiseau en repérant qu'il y a de la colle qui coule des pins et qu'on peut utiliser de la glu et qu'on peut attraper un oiseau en le collant dessus. C'est attraper un oiseau avec un bout de bois et deux cailloux, ça s'appelle une matole.
Vous ne trouvez pas ça cruel, spécialement.
Non, alors, en plus, précisément, la chasse à la glu, c'est ridicule de monter contre ça. C'est la seule chasse où on ne tue pas l'oiseau. C'est-à-dire, il est attrapé par de la colle, effectivement sur un bout de bois. Ces oiseaux servent d'appelant. C'est extrêmement réglementé. C'est une quantité infinitésimale de ce qu'on peut prélever. Quand je sais, par rapport à ces oiseaux, par rapport à ce que peuvent manger les chats en France tous les ans, c'est ridicule.
Alors pourquoi ?
Parce que ils en ont fait un symbole. Ils ont fait un symbole. Alors évidemment,
pourquoi continuer à les attraper ?
Et pourquoi pas ? Et pourquoi on devrait se priver de cet héritage que nous avons, l'espèce humaine ? C'est nous qui avons un jour imaginé ça. Pourquoi on devrait ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à attraper un oiseau effectivement avec de la colle et de l'enlever de la colle ? Alors je vois plein de photos sur les sites. La Space en a beaucoup. Monsieur Rigaud en sort énormément. Alors c'est marrant parce que les bâtons de colle ils sont par terre, ils sont à des endroits complètement normal. Moi je dis à un moment les montages de ces photos m'inquiètent beaucoup d'ailleurs. Alors ils sont très doués sur l'opinion publique. On a peut-être effectivement, nous, plus de capacité à monter des choses avec le lobby de la chasse, on l'entend bien. Mais par contre, sur l'opinion publique, nous ne sommes pas bons. Donc on va beaucoup, beaucoup travailler là-dessus et on va ouvrir tout ça. Et puis pour répondre à M. Dupuis, je pense qu'il a raison. Nous, on est prêts à balayer devant notre porte. Il y a des chasses, ce que nous avons commencé à faire. La chasse à courre, par exemple, qui est vraiment une chasse extrêmement naturelle, qui reprend, je dirais, l'action normale d'une meute de chiens pour une meute de loups, avec un encadrement par des chasseurs, où là, il n'y a rien de violent. On refait, je dirais, la scène dans la nature de ce qui peut se passer. Il y a des choses à améliorer. On l'a fait, par exemple. Aujourd'hui, en 2019, on peut plus attraper un cerf au milieu d'un village ou ce genre de choses. On fait évoluer beaucoup de choses dans ce domaine et on reconnaît qu'il y a des choses à améliorer.
Pierre Rigaud.
Il y a toujours l'argument, on le fait depuis longtemps donc c'est bien. C'est naturel donc c'est bien. Alors nous sommes des humains et nous avons évolué et nous ne faisons pas ce que nous faisions il y a 3 millions d'années, il y a 200 000 ans. Donc évoluons et développons en nous ce qui est la plus belle capacité de l'homme, l'empathie et la connaissance des conséquences de nos actes. Quand on fait souffrir inutilement, on doit arrêter de faire souffrir, point.
C'est important ce que dit M. Rigaud. Et là on a un vrai problème. Moi je pense que je suis normalement constitué et que lui a un problème. L'empathie, c'est une chose, mais nier les équilibres de la mort et de la vie qu'il peut y avoir dans la nature, ça quand même,
c'est incroyable.
C'est
mon travail de les étudier, je les connais.
Oui,
je
et pense si vous associez bien votre travail, vous auriez depuis compris longtemps que les équilibres qu'il y a dans la nature se composent autour de la mort et de la vie. Aujourd'hui, la société a peur de la mort. On garde plus ses morts chez soi, on a peur de tout ça, on ne veut pas en entendre parler. La nature, ce n'est qu'un mélange constant de mort et de vie. Ce qu'on reproduit d'ailleurs à travers la chasse. Alors après, vous parlez effectivement de la chasse, de son inutilité. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là où on arrête la chasse, par exemple, il y a un bon exemple, j'en ai plein en France, mais on va prendre celui qui est le plus retentissant, c'est celui du canton de Genève. Quand on arrête la chasse, aujourd'hui, on fait le bilan. il y a moins de biodiversité dans le canton de Genève qu'il y en a dans les autres cantons. Et les Suisses sont quand même pas fous, puisqu'ils ont posé la question au canton de Zurich il y a quelques mois, et ils ont voté contre l'arrêt de la chasse à 85%. Je veux dire, la chasse en Suisse, c'est pas quelque chose qui est majoritaire, loin de là. Donc ça veut dire quand même qu'à un moment, quand vous arrêtez la chasse, et quand vous retirez l'homme, parce que c'est toujours la même question, voilà, retirez l'homme du territoire, retirez l'homme de l'espace nature, on se rend compte que ça va beaucoup plus mal pour la nature.
J'aimerais lire quelques réactions d'auditeurs qui nous parviennent. Ophélie écrit ceci. Je ne comprends pas ce procès de principe fait par les écologistes envers les chasseurs. Ils ont visiblement un problème avec la mort, c'est ce que vous disiez
exactement,
à l'instant, plutôt qu'avec les chasseurs.
Un problème.
Je suis pourtant à forte sensibilité écolo, dit-elle, et je vote pour eux. Mais dans sa philosophie de base, quoi de plus naturel que de chasser ? Question également de Lou, une question sur la régulation. Pourrait-il y avoir un retrait de permis de chasse en état d'ivresse, comme pour les automobilistes, demande-t-elle.
Willy Schran.
Il y a déjà Rémi Dupuis.
Ah oui, ça existe, tout à fait.
Voilà, une réponse efficace et pas chère. Et Serge pose une question qui m'intéresse également. Je me demande pourquoi ils sont vus comme des monstres, les chasseurs, alors que les pêcheurs, qui ne font pas non plus de cadeaux à la nature, eux, sont presque vus comme des poètes.
On parle de la chasse aujourd'hui. Il y a en effet un aspect plus bucolique dans l'imaginaire des pêcheurs. Je ne défends pas du tout les pêcheurs, mais les chasseurs essayent aussi d'instituer cet aspect un petit peu bucolique, un petit peu « c'est mon grand-père qui m'a appris au contact de la nature », etc. D'ailleurs, les campagnes successives publicitaires que font les chasseurs, on voit jamais la balle dans le corps de l'animal. C'est pas les écolos qui ont un problème avec la mort, c'est simplement que nous essayons d'être dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire d'évoluer vers plus de respect du vivant, d'évoluer vers plus de respect des animaux, quand il n'y a aucune nécessité, quand il n'y a strictement aucune nécessité à infliger la mort et la souffrance, il ne faut pas le faire.
Alors, en parlant de nécessité, Félix nous écrit ceci. J'habite dans la campagne, j'ai 28 ans, Centre-Bretagne, une commune où il y a beaucoup d'activités de chasse et je constate beaucoup de chevreuils présents partout mais qui rendent impossible la plantation d'un verger. Est-ce qu'elle a du sens, à votre avis, Rémi Dupuis, la question de l'utilité d'une espèce ?
Elle a du sens, ça dépend de quel point de vue. Le sens biologique du terme, elle a bien sûr beaucoup de sens.
Dans un écosystème.
Tout à fait. Oui. Chaque espèce est d'une certaine façon une pierre angulaire. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Mais c'est important de préserver chaque maillon pour que le grand édifice se tienne. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est le retour des prédateurs qui contribuent notamment à la régulation des grands ongulés. Les chasseurs sont mitigés sur le sujet.
Alors et qu'on là aussi, parle beaucoup d'utilité.
Alors qu'on sait que les sylviculteurs attendent de pied ferme le retour du loup dans certaines forêts qui sont ravagées par la surpopulation, notamment des cervidés ou des sangliers.
Mais les chasseurs, si, sont réservés car le loup va s'attaquer à leur gibier.
Oui, non, je pense que là, on incarne effectivement les valeurs rurales. Le loup, comme grand prédateur, pour les chasseurs, ne pose aucun problème. Sauf que le territoire de la France, c'est pas le parc de Yellowstone aux États-Unis, où vous avez à peu près 4 départements ensemble qui forment un parc où il n'y a pas une habitation et pas un être humain. Moi, je dis juste qu'il faut des loups, il faut des ours, mais aujourd'hui, la France est ce qu'elle est, elle est peuplée, il y a des équilibres à respecter. On ne peut plus laisser le super prédateur faire tout ce qu'il a à faire, effectivement, sinon on va provoquer des vrais déséquilibres, ce qu'on commence à voir sur les estives de haute montagne. Il y a un vrai problème avec le loup. On avait des cœurs de biodiversité exceptionnels, aujourd'hui on ne peut plus faire paître les troupeaux, on est obligé de faire descendre les brebis, c'est une catastrophe écologique.
Sur des troupeaux qui sont très mal protégés par les éleveurs.
Mais oui, alors après bon, est-ce qu'il faut faire un choix ? Aujourd'hui le loup, on va arrêter de tourner autour du pot au niveau des chiffres. Tout le monde dit qu'il y en a au moins 500. Au moins 500, c'est ce que dit l'établissement public. Il y en a probablement 2000 en France. C'est la réalité de ce que nous voyons sur le terrain.
Alors ça c'est la réalité.
C'est
un peu à l'image des études produites habituellement par les chasseurs. Oui. 500 loups, 1 million de chasseurs, des astres
écologiques,
on peut parler réalité.
J'ai pas dit que la chasse tuait 100 000 chamois quand on en a tué 12 000. Révisez vos chiffres déjà et vous parlerez de quelque chose de sérieux. Moi je sais ce que nous sommes sur le terrain.
La faune sauvage, je voudrais quand même simplement recentrer le débat, si je puis dire, mais nous parlons de la chasse, nous parlons d'un loisir qui consiste à tuer pour le plaisir.
Ce n'est pas un loisir, monsieur Rigaud. Il ne faut pas dire une bêtise sous les trois mots.
Ce sont des gens qui s'amusent à tuer pour s'amuser, alors qu'il n'y a strictement aucune nécessité écologique à le faire. Ce sont des gens qui tirent sur 30 espèces menacées. Ce sont des gens qui utilisent les méthodes les plus archaïques et qui font souffrir des animaux dans le seul but de perpétuer une tradition qui n'a pas lieu d'être, avec des arguments qui sont toujours des arguments connexes, annexes, qui ne concernent jamais le cœur de la pratique de la chasse, qui sont nous faisons des banquets dans la convivialité, nous sortons le chien, nous nous amusons, nous gérons les territoires. Non, c'est tuer pour s'amuser, point, c'est tout, c'est juste.
Alors, on n'avait pas l'ambition de vous réconcilier ni de vous mettre d'accord aujourd'hui, mais je crois qu'on a alimenté
la
réflexion
des auditeurs.
Non, mais c'était
bien que je sois là, c'est pas comme la tronche en biais où monsieur Rigaud est tout seul pour raconter plein de bêtises.
Le débat de midi sur France Inter.
Allez, dernière question à l'approche de la fin de l'émission, une question que je pose à tous ceux qui passent par ce micro. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Réponse très rapide, s'il vous plaît. Et on commence avec Strasbourg. Karim Adeli.
Très rapidement, j'avais décidé de partir assez loin en vacances, mais vu le réchauffement climatique, ça fait quelques années que je me dis, je change d'avis et je vais dans la proximité.
Et voilà. vous ne prenez plus l'avion donc ?
J'essaie au maximum de ne plus prendre l'avion. Voilà.
Même question pour vous, Willy Schran. Sur quoi avez-vous changé d'avis ?
J'ai changé d'avis il y a peut-être quelques années sur le fait de trier effectivement nos déchets. Et le sujet du climat est un sujet très important qui pour nous, on a des ressentis, on voit des choses au niveau de nos campagnes qui commencent à être inquiétantes. Et je pense qu'on a une vraie prise de conscience, mais elle doit être planétaire. Moi, je suis allé il y a quelques mois un peu loin. Malheureusement, Madame Deli, je suis allé faire un tour en Afrique, je connaissais pas, et j'ai vu que le plastique là-bas c'était quand même catastrophique. Donc nous, on doit faire des efforts. Et je pense que la France les fait, les Français les font ces efforts, mais on doit vraiment aider au niveau planétaire sur le plastique parce que c'est une catastrophe.
Donc vous ne triez pas hier et vous triez aujourd'hui vos déchets ?
Il y a 15 ans, mais la prise de conscience s'est faite il y a une quinzaine d'années. Mmh. On n'avait même pas les poubelles pour les trier à l'époque à la campagne, on pouvait même pas nous reprocher. Mmh. Mais aujourd'hui, je veux dire, voilà, j'irai trouver. Ça m'est arrivé d'aller trouver quelqu'un dans la rue qui jette un papier en disant reprends ton papier et mets dans une poubelle.
Même question au documentariste animalier Rémi Dupuy. Sur quoi avez-vous changé d'avis ?
Moi, j'ai changé d'avis sur l'impossibilité d'une île de cohabitation entre nature et culture. Je pense qu'il faut se battre. On se sent parfois seul au milieu, mais entre les pros et les anti, je crois qu'il y a un vrai combat à mener pour faire cohabiter. Moi, je suis éleveur de chiens de protection de troupeaux. Je trouve ça très intéressant, tous ces sas de cohabitation, tous ces éléments de médiation dont nous avons besoin pour garantir une nature qui ne doit pas être sanctuarisée, qui ne doit pas être sous cloche, mais qui ne doit pas être non plus une débâcle de poudre.
De poudre de perlimpinpin. Merci beaucoup. Pierre Rigaud, même question. Avez-vous changé d'avis ?
C'est marrant, on en a parlé un petit peu juste avant. Quand j'étais petit, je croyais que les moutons entretenaient la montagne. C'est ce qu'on a parfois tendance à dire. C'est même un des clichés les mieux ancrés. En France, on croit que les moutons empêchent les arbres de pousser. Or, au-delà de 2000 mètres d'altitude, il n'y a pas de buissons, il n'y a pas d'arbres. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre des moutons pour avoir un joli paysage.
Donc, vous avez changé d'avis sur l'élevage ?
C'est-à-dire que je me suis rendu compte de la réalité scientifique et biologique.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé.
Merci.
Les références de vos livre sur le site de France Inter, à suivre le journal de 13h.